ce mois de décembre rafraîchissant, un caillou dans la chaussure vous propose de terminer l'année ainsi. En troisième partie d'émission, quelques minutes avec le surprenant Claude Ponty. S'il y a bien un endroit où on n'attendait pas Claude Ponty, c'est sur Internet. Et pourtant, il nous parlera de la mise en ligne d'un musée d'œuvres d'enfants, le MUSE, une initiative de grande ampleur. Nous retrouvons la chaleureuse Nathalie Guimard et le petit cinéma de Photokino. Bonjour Nathalie.
Bonjour Marie-Dominique. Et nous proposons de commencer l'année 2010 en présence d'un charmant petit chat adorable, Komaneko, qui fait du cinéma d'animation.
À tout à l'heure Nathalie, et tout de suite, rencontre avec Emmanuel Houdard, auteur d'albums jeunesse dans lesquels elle voit en grand tout ce qui se passe dedans. Faisons le détour par l'imaginaire d'Emmanuel Houdard, apprivoisons nos monstres intérieurs et sourions pour ne plus en avoir peur. Emmanuelle Houdard est auteure et illustratrice notamment de l'abécédaire de la colère pour tout public, Tout va bien Merlin, destiné à la petite enfance, Heureux parents à lire en famille, aux éditions Thierry Magnier, pour ne parler que de ces trois titres les plus récents sur la vingtaine déjà parus depuis une bonne dizaine d'années, je crois. Emmanuelle Houdard propose des albums où l'image est ample et prépondérante, avec de curieux personnages hybrides entre animaux et humains. Le propos le plus souvent explore les peurs, les colères intérieures. Son imaginaire est un monde onirique, fait de monstres, ogres et géants tonitruants, mais aussi de douceur prête à être révélée et d'amour toujours. Emmanuelle Houdard, bonjour.
Bonjour.
Alors, Emmanuelle Houdard n'a pourtant rien d'un monstre, bien au contraire, mais où va-t-elle chercher tout cela? Peut-être pouvons-nous déjà entrer dans les illustrations, peut-être donner une idée aux auditeurs visuellement ce que vos livres proposent, essentiellement sur fond blanc, avec des couleurs chaudes, et tout est dans le détail des personnages, de leurs vêtements, des tissus et accessoires, le tout dans un style baroque. Emmanuelle Houdard, vous nous surprenez, vous surprenez le lecteur avec ces images si fortes, le saviez-vous?
Tant mieux, la surprise en fait c'est le moteur aussi de la création, ça veut dire c'est aussi mon propre moteur à moi, d'essayer de me surprendre moi-même, d'essayer quand je dessine, peut-être quand j'ai trouvé une idée, de me dire bon d'accord, cette idée est pas mal, mais cherchons plus loin, peut-être plus étonnant, ou plus bizarre, plus étrange. Mm-hmm. Moi j'aime beaucoup l'étrangeté, et quand vous me demandiez où je trouvais mes idées, mm-hmm. moi je... Déjà ça c'est une grande part mystérieuse, une grande partie on ne sait pas où on trouve, d'où nous arrivent ces idées, mais moi je puise beaucoup dans mon quotidien, que je transforme, déforme, recous avec d'autres choses, mais je puise beaucoup dans mon quotidien et peut-être aussi dans mes aspirations intérieures ou mes questions existentielles.
Et est-ce qu'il y a aussi, par exemple, une filiation littéraire, des lectures d'enfance qui continuent à vous nourrir, un auteur ou des contes merveilleux aussi de référence, par exemple, dans votre parcours? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué comme ça et qui continuent à vous nourrir?
Alors, il y a des choses qui m'ont marqué plus tard, hein, pas tellement quand j'étais petite, j'avais très peu de livres pour enfants, je crois que j'en avais un ou deux, qui étaient plutôt des gros livres qui appartenaient à ma maman, avec des images d'ailleurs tout à fait qui continuent de me poursuivre. Je me suis jamais vraiment renseignée qui les avait faites, mais c'est des images terribles, comme ça, rouges. Et donc ça, c'est entré dans mon travail, puisque moi, je travaille beaucoup avec le rouge. Le rouge, c'est une couleur très un peu incontournable pour moi, je finis toujours par tomber dans le rouge, je ne sais pas pourquoi. Et oui, des références, c'est plutôt des amis illustrateurs, des gens qui me côtoient, que je côtoie, que j'aime, et qui seraient peut-être des références ou des maîtres, enfin comme Anthony Brown ou Nicolas Sedelbach ou des gens comme ça. Et sinon, moi, j'ai beaucoup aimé l'expressionnisme, puis j'ai beaucoup aimé Bosch, des gens qui travaillent comme ça, des détails et puis beaucoup de... des choses de l'ordre du monstrueux, disons.
Alors, indépendamment ou dépendamment d'ailleurs des images, le propos, d'une manière générale, que servent vos images, moi j'ai l'impression que vous avez gardé quand même une grande complicité avec l'enfance, avec les peurs, les questionnements. Vous parlez de vos propres questionnements à vous, qui continuez de grandir, mais j'ai l'impression que vous avez gardé quand même une grande complicité avec les questions existentielles que se posent les enfants. Peut-être n'y a-t-il pas de frontière du tout ?
Si, moi je pense qu'il y a une vraie frontière, en tout cas une vraie... qu'on ne redevient pas enfant, qu'on ne garde pas son âme d'enfant, comme les gens aiment bien dire. Ça, je ne crois pas tellement à ça. Moi je pense que la vie nous use, nous tord, et que notre âme d'enfant, elle reste dans notre enfance. Par contre, moi je vis avec des enfants. J'ai un tout petit qui a 3 ans, Merlin, mon fils, et ma fille Fantine, avec qui je vis beaucoup de choses. Donc de ça, je prends beaucoup, parce que je vis beaucoup de choses avec eux. Je n'ai pas l'impression tellement de vivre à côté d'eux, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir la chance, comme ça, de partager des choses avec ce petit peuple des enfants. Puis d'autre part, dans mes livres, moi, j'aime bien mélanger, alors, parce que vous parliez de frontières, ben justement, là, la frontière devient, en effet, peut-être un peu floue. C'est que j'aime bien parler aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qu'aux adolescents, enfin, essayer de parler à tous. Et donc, mettre, pas forcément très consciemment, mais mettre plusieurs niveaux de lecture dans mes images. Bon, ça dépend. Hein. Par exemple, dans le Tout va bien Merlin, qui est un livre pour les tout-petits, bon, ben voilà, c'est un livre pour les tout-petits, il n'y a pas de clin d'œil à l'adulte spécialement. Oui. Mais dans l'abécédaire de la colère, on verra beaucoup plus de scènes que les enfants verront d'une certaine façon à eux, comme ça, et que les adultes, ça les fera peut-être rire à d'autres niveaux ou penser à d'autres choses.
Alors justement, parlons de l'abécédaire de la colère, donc un grand album qui de A à Z parcourt d'où vient la colère et comment on peut l'expulser. Vous explorez entre abdomen et zygomatique les différents combats, les luttes, les solutions d'apaisement ou de détournement. Pour vous, la colère est un pays, l'enfer, mais dans lequel on a le choix de s'égarer ou pas.
La colère, moi, ça fait longtemps que je voulais faire ce livre. Alors en fait, dans un parcours artistique comme ça, il y a un temps où on travaille avec d'autres, et puis moi, il arrive toujours un temps, une année comme ça, où j'ai envie de travailler seule, où j'ai envie de faire mon livre. J'avais fait comme ça les Monstres Malades, qui est paru il y a déjà 5-6 ans, je crois. Et voilà, est revenu le temps, au bout de 5-6 ans, de faire mon livre. Donc l'année passée, il est sorti l'année passée, donc je l'ai fait l'année d'avant. J'ai fait ce livre sur la colère. Et dans ce livre où j'ai décidé d'utiliser que toute la gamme des rouges, toute la gamme des noirs, si on peut dire, et puis les couleurs de la peau, donc une économie de couleurs comme ça, j'ai voulu parler de la colère, parler de ses effets, de ses conséquences, parler du droit à la colère, parler aussi de ce que ça peut gâcher, remuer ciel et terre autour de cette colère pour... peut-être une chose que moi j'avais à dire, que moi j'avais à sortir, dont j'avais à m'occuper. Et j'aime bien quand j'ai une grande chose dont je dois m'occuper, faire un livre. Alors ce livre, voilà, par exemple, la page des cris, le C, j'ai choisi de parler des cris, et j'ai choisi de parler des parents qui se disputent. Et donc voilà, je pense que dans le texte et dans l'image, les parents qui se reconnaîtront, le couple qui se reconnaîtra, elle aura peut-être une certaine ironie dans cette image. Les enfants, ils vont y voir autre chose. Les textes sont souvent là aussi pour dédramatiser l'image, que j'aime bien qu'elle soit assez forte, comme ça, qu'elle soit sans concession, disons.
Et en même temps, donc en fait, un livre, quand vous dites que c'est une question dont vous devez vous occuper, finalement, c'est aussi pour trouver des réponses, les vôtres, des réponses intermédiaires, c'est explorer, mais aussi donner, envisager des portes de sortie, des issues. Le rire est salvateur, par exemple.
Oui, c'est tout à fait ça. Souvent, mes livres vont prendre comme point de départ quelque chose de ma vie ou quelque chose qui m'importe, pas forcément quelque chose de tout à fait personnel, parfois oui, mais pas toujours, bon, en tout cas quelque chose qui m'apporte. Moi, je n'ai plus envie de... Enfin, ça ne m'intéresse pas de mettre au monde des livres... voilà, qui, enfin, je ne vais pas dire qui existe déjà, parce que bien sûr qu'on ne fait que répéter ce qui existe déjà, et que je ne suis pas spécialement novatrice, mais pour moi, c'est important de me dire, ce livre-là, il doit exister. Et je ne vais pas accepter de l'illustrer un livre, 150e livre sur la cuisine, je ne sais quoi, parce que ce serait joli. Je préfère un livre qui, pour moi, a de l'importance.
Oui, et en même temps, bon, bah, pour ne parler encore que de la colère, c'est un sentiment bien connu des enfants. Donc forcément, bah, ça parle à tout le monde. Vous, adultes, proposez ce thème-là, mais en même temps, c'est très large, très vaste, et je trouve très réussi, justement, ces différents niveaux de lecture que vous proposez.
Un caillou dans la chaussure.
Donc pour enchaîner, comment décidez-vous d'écrire et d'illustrer un nouveau livre ? Donc par exemple, comment est né Tout va bien Merlin ?
Alors Tout va bien Merlin, c'est différent. C'était une proposition du Conseil régional de l'Ardèche qui propose depuis 2 ans, je crois, c'était la deuxième fois, de faire un livre pour tout petit qui sera offert à tous les nouveau-nés de l'Ardèche. Cette fois, ce sera en 2009-2010. Donc c'était un concours en fait. J'ai participé à ce concours et par merveille, j'ai gagné ce concours. Donc, j'ai fait ce livre, j'ai monté cette histoire pour tout petit. Donc, c'est moi qui l'ai monté, qui ai écrit le texte et tout ça. Mais ça, c'est une proposition venue d'ailleurs. Moi, j'étais en train de faire un autre livre. D'ailleurs, je me demandais comment j'y arriverais. Normalement, je ne fais qu'un livre par an. Et voilà, en même temps, ça m'a permis, moi qui ne suis pas tellement pour faire des livres pour tout petit, ça m'a permis de justesse de faire un livre pour mon petit garçon, Merlin. Mmh. Et voilà, peut-être que s'il n'avait pas fait, il me l'aurait reproché quand il aurait grandi. J'ai fait le « Que fais-tu, Fantine ?» pour ma fille. Donc voilà, puis je suis très contente d'avoir fait ce livre aussi parce que c'est juste de la douceur et puis que j'ai pu garder aussi mon côté... J'ai pas eu besoin de me couper les ailes pour faire...
Non, pas du tout. Au contraire, vous avez gardé les monstres, les inquiétudes, et en même temps, c'est truffé de douceur. C'est-à-dire que vous avez mis, j'ai l'impression, vous avez mis en exergue, dès la petite enfance, voilà, les enfants sont déjà dans des tourments, et ils ont déjà une force imaginative importante. Et la nécessité de dépasser ces inquiétudes pour grandir et se construire, eh ben, c'est avec la douceur, et à chaque fois qu'on tourne une page... Eh bien, le monstre, dans un premier temps un peu inquiétant, ben en fait, on s'aperçoit que non, pas du tout. On peut se l'approprier et on peut s'apaiser.
Mais tout à fait. Moi, je crois que je parle beaucoup de ça, de ce que vous venez de dire là, de vraiment la rédemption, comme ça, dépasser ses peurs,
oui,
pour grandir. Comme je pense que c'est un thème qui est complètement universel et complètement à tous les âges de la vie, il est important, dépasser ses peurs pour grandir, tous les âges. Grandir, quoi, parce que si on s'arrête à 40 ans de grandir, si on s'arrête à 70 ans de grandir, eh bien, voilà, quel intérêt cette vie, on n'a que cette vie-là, il faut essayer de grandir, d'aimer, d'être au plus proche de soi, des autres. Et voilà, j'essaie de m'approcher de tout ça dans mes livres.
Grandir, c'est en fait être dans le mouvement, être toujours dans une recherche, dans une interrogation.
Pas seulement, parce que je pense qu'on peut aussi être... alors, il n'y a que des moments de tourment si on n'est que dans l'interrogation, ou des moments durs, parce que l'interrogation, c'est pas toujours de la création, c'est pas toujours la réalisation des choses. Mais non, grandir, pour grandir, je pense qu'il faut, écouter au fond de soi ces petites voix, et puis faire aussi, pas seulement se questionner, mais...
Oui.
Ouais, créer, quoi, avoir du plaisir.
Et du coup, être un peu plus en accord avec soi-même si on s'écoute en même temps ?
Bah oui, si on s'écoute, on choisit le chemin qui nous rapprochera de nous-mêmes.
Alors, si vous avez une grande complicité avec l'enfance, vous l'avez aussi avec les adultes. Vous avez illustré Les heureux parents sur un texte de Laetitia Bourget. Alors, là où les contes de fées se terminent, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. L'album Les heureux parents débute ainsi. Un prince et sa princesse sont immensément amoureux. Mais le passage au rôle de parent réveille des jalousies et autres soubresauts émotionnels insoupçonnés jusque-là. Donc là, c'est un regard avec recul. Un recul sur la vie de famille vue comme une succession d'épreuves auxquelles le couple devra s'adapter. Est-ce que vous pouvez nous dire le plaisir que vous avez eu ou l'intérêt que vous avez eu à illustrer ce livre-là, qui est là, on est dans des propos très contemporains?
Alors ça, c'est un texte de Laetitia Bourget, qui est une plasticienne et une de mes amies, une de mes grandes amies, qui avec qui on a fait quelques livres. Et donc, en fait, ce texte, c'est un texte très tout simple, avec des petites phrases qui m'ont laissé, moi, beaucoup de liberté pour illustrer, pour dessiner, pour inventer des situations, pour rajouter des détails et pour aller là où moi j'avais des choses à dire aussi sur l'adolescence, sur la petite enfance, sur les disputes, tout ça. Donc là, ce livre, c'est vrai, c'est un livre qu'on va plutôt vendre à des adultes qui l'achètent pour des parents, des nouveaux parents, qui viennent d'avoir un enfant. Et c'est un livre qui est plutôt ironique, qui est tendre, disons. Il se veut drôle, en faisant de l'humour sur les situations qui sont pas toujours marrantes quand on a un petit.
Quand on les vit.
Et surtout aussi, moi, ce que j'aime bien, ça a l'air con, mais c'est de dire la vérité, de dire aux gens, de dire même aux enfants, voilà, quand on a un petit qui naît, eh bien, c'est pas si simple, c'est merveilleux, mais les mamans, elles peuvent pleurer pendant des mois, mais les papas, ils sont tous décontenancés, et quand cet enfant arrive, c'est la merveille de merveille, mais en même temps, c'est terrible. C'est l'aventure du monde, tout le monde, des enfants, il en est chaque jour des milliers et des milliers, mais c'est une chose toujours aussi étonnante, extraordinaire, et vivre avec des enfants, et tout, c'est le fondement de la vie, quoi.
Alors, ouvrir des albums d'Emmanuel Houdard, c'est s'offrir le plaisir surprenant des mots et des images. La lecture est un vécu partagé d'une immense intensité. Le tout drapé de douceur, on l'a déjà évoqué, et de bienveillance devant le lecteur confronté à ses propres angoisses. Alors, vos livres sont dédiés à vos proches. Chaque livre, ces mots et ces images sont finalement des gestes d'amour.
Oui, mais c'est-à-dire qu'un livre, il va partout, il va même peut-être être traduit, aller dans d'autres pays. Donc c'est une merveilleuse chance aussi de déclarer son amour pour les siens à la face du monde, quoi. Oui. Quand on se marie ou quand on baptise un enfant, enfin moi j'ai pas spécialement fait, mais ces cérémonies comme ça, c'est pour dire à tous, voilà, j'aime cet homme, voilà, j'aime mes enfants. Et voilà, puis j'aime bien aussi dans mes livres remercier, faire des pages de merci, parce que peut-être justement parce que je me dis que tout le monde les lira, et que, enfin, tout le monde les lira, ceux qui vont acheter les livres les liront, et que c'est l'occasion comme ça de remercier, de réfléchir qui t'a aidé pendant cette année où tu as fait ce livre, qui t'a accompagné, qui est resté proche de toi, voilà.
Est-ce qu'on peut deviner une sorte de fidélité avec les éditions Thierry Magnier?
On peut deviner. les éditions Thierry Magnier, pour moi, c'est ma maison, mais dans beaucoup de sens du terme. C'est une vraie maison, une maison où on est accueilli, une maison où je suis aimée et où j'aime les gens. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement efficaces professionnellement. Ce sont des gens gentils et futés. Et c'est des gens qui sont devenus des amis et pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Voilà, on a eu aussi du succès ensemble, des choses à partager qui ont été très belles. Et donc voilà, c'est vrai que moi je suis extrêmement fidèle de nature. Et que, voilà, comme je suis vraiment en confiance, dans cette maison, je suis fidèle. Et puis j'ai pas tellement non plus l'occasion, le temps, ni l'occasion, mais je la cherche pas, de faire des livres ailleurs, parce que j'ai pas la place, d'une façon, j'ai pas le temps. Moi je fais peu de livres parce que j'aime bien les soigner, puis entre les images, vivre des choses pour dire des choses. Donc j'ai pas le temps de faire, je sais pas, il y a des illustrateurs, eux ils travaillent autrement, ils font beaucoup de livres, donc ils peuvent travailler avec beaucoup d'éditeurs différents, ils sont sur un autre chemin. Moi j'aime bien aller profondément dans les choses, vivre profondément avec les gens, Et voilà, j'espère que ça
prendra. Et prendre le temps nécessaire pour tout ça.
Oui, prendre le temps, parce que c'est le temps dans un travail artistique, il est tellement différent d'un temps habituel, je ne sais pas comment dire, pour moi en tout cas. Moi, je peux pas, je vais peut-être arriver au bout de mon travail dans la journée en me disant mince, là, il faut que j'aille chercher mes enfants, j'étais sur un moment de concentration presque de transe, c'était magnifique, j'aurais pu travailler encore des heures, ou je peux être au bout de mon dessin, au milieu de l'après-midi, en me disant non, mais là, il faut que j'arrête, sinon je vais tout gâcher, il faut que je me renourrisse, que je refasse des petites pousses, que je replante des choses.
Et est-ce qu'il y a des petites pousses pour 2010?
Pour 2010, je suis en train de faire une chose complètement différente, parce que là, j'ai eu 40 ans, 42 cette année, et ça m'a un petit peu effrayée, ou ça m'a un petit peu... Je me suis sentie... J'ai eu peur de muser, quoi. J'ai eu peur aussi, dans mon travail, de faire du Emmanuel Houdard, de me rabâcher, de me piétiner sur la jupe. Et donc, j'ai décidé de laisser cette année le livre et le dessin pour les enfants, et je fais des dessins... libre, en fait, des dessins qui me viennent de loin, que je n'ai jamais le temps de faire, en fait, quand je fais mes livres. Et voilà, des sortes d'images uniques qui feront un livre chez Thierry Magnier, mais un livre pour adultes, vraiment pour adultes, qui seront sans doute une exposition. Ce sont des dessins sur la féminité, sur le lien, le vieillissement, voilà.
Alors, nous n'avons pas parlé d'Émilie Pastèque, de Monstres malades ou à peine, de Dedans. Vous avez aussi illustré Le Carnaval des animaux, Grande fantaisie zoologique de Camille Saint-Saëns et bien d'autres encore. Mais je laisse le soin à nos auditeurs d'affiner leur découverte. Emmanuel Houdard, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de monstrueuses fêtes en famille.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Un caillou dans la chaussure.
Un idée à coudre et trois gouttes d'eau dedans, d'eau dedans. Et au-dessus du perchoir, un os de sèche. Et un petit air triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. Mais c'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans cigares. Une fois dans votre vie, vous qui n'êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Concierge fait cui-cui sur son balcon avec ses perruches importées du Japon. Ses canaris jaunes et puis ses pingalis. À votre tour, faites-leur guili-guili. Et sournoisement exclamez-vous: mais mon Dieu, quel plumage! Chère madame, on vous demande au troisième étage. Troisième étage. Et des clavignoles, on râle de tourner. Et même si on ne doit pas vous le pardonner, jamais. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
On retrouve Nathalie Guimard pour la rubrique du petit cinéma de Photokino. Mais avant ça, Nathalie, l'Aterna Magica, c'est pas encore terminé?
Et non, ça se termine demain. Donc oui, on a passé de très bons moments pour l'instant et j'espère que ça continuera encore demain, avec des belles rencontres, des bons moments partagés avec les artistes, avec le public, très chaleureux cette année. Et puis voilà, on est ravis d'avoir procuré autant de plaisir qu'on en a eu à proposer tous ces beaux moments.
À monter cette très belle édition.
Bricolée.
Oui, sous le thème du bricolage. Moi, je voulais juste rappeler que nous avons reçu Gianpaolo Pagni dans cette émission et que son exposition vaut le détour, ainsi que celle d'Isidro Ferrer. Donc, c'est à la Galerie Mongrand et ça se termine demain. Donc, faut pas oublier d'aller faire un petit crochet par la Galerie Mongrand.
Voilà, avant d'attendre le Papa Noël, c'est jusqu'à 18h.
Par exemple. Donc Nathalie, on enchaîne avec le petit cinéma de Photokino pour le prochain rendez-vous, le premier de la nouvelle année 2010. À tout de suite Nathalie.
トトロ、あなたトトロっていうのね。
Le petit cinéma。
Le mercredi 6 janvier à 10h au cinéma Les Variétés à Marseille. Une rentrée en douceur et en beauté avec la première séance du petit cinéma en 2010. Koma Neko de Tsuneo Goda. C'est un film japonais et ses cinq aventures du petit chat curieux Koma Neko, qui veut dire littéralement en japonais « chat qui prend des images ». C'est de l'animation en volume et voici donc l'histoire d'un petit chat qui décide de réaliser un film en stop motion, c'est-à-dire en animation image par image. Au début du film, dans sa chambre atelier, qui nous rappelle le grenier de Jacques Demy dans Jaco de Nantes, Koma Neko écrit son storyboard plan par plan. Il imagine son histoire sur le papier, puis fabrique les personnages et les décors avec de la feutrine, une machine à coudre, du carton et des crayons. Et une fois le tout préparé, il commence le tournage de son histoire, une histoire d'amour, bien sûr. Il fait son film d'animation, c'est-à-dire qu'il anime des objets et des poupées et leur donne vie, comme s'ils bougeaient tout seuls. Alors que lui-même est un personnage de film d'animation. Faire un film, ça demande beaucoup de patience et parfois c'est très énervant quand ça ne marche pas comme on voudrait. Un film idéal donc pour apprendre à faire du cinéma d'animation, tout en prolongeant un peu l'Aterna Magica puisqu'on reste sur le bricolage d'images.
Le petit cinéma.
Et puis Koma Neko, c'est très mignon, kawaii comme disent les japonais. Et c'est drôlement bien animé, et ça ne ressemble à rien d'autre. Enfin si, peut-être un petit peu à Monsieur et Monsieur. Vous vous souvenez les magnifiques oursons imaginés par le réalisateur tchèque Bratislav Pojar, dont les dialogues et l'humour surréaliste ravissent petits et grands. Koma Neko tourne dans son studio, mais aussi dehors. Il part filmer avec sa caméra Super 8, il explore la nature à travers l'objectif et essaye de capturer dans la boîte à images tout ce qu'il trouve beau. Les fleurs qui s'épanouissent, le vol d'un papillon, des poussins tout juste sortis de l'œuf, en musique. « C'est rythmé. Et nous passons par toutes les émotions au fil de ces différentes histoires. La vie d'un petit chat est pleine d'émerveillements, pleine de découvertes, et naturellement, cela ne va pas sans quelques peines. C'est un film plein de tendresse, tant par les matériaux utilisés que par les rapports entre les personnages. Entre Coma et son grand-père, par exemple, ou entre Coma, sa nouvelle amie, et le Yeti, lors de la dernière histoire.
Un caillou dans la chaussure. Le petit cinéma.
Les dialogues peuvent se comprendre dans toutes les langues, puisqu'en bon chat, Coma et ses amis miaulent et échangent quelques gna-gna ou miam-mia.
Gna-gna.
Oh.
Gna.
Gna.
Dans le troisième film, Comaneco fait la connaissance de Radiobo, qui, comme Coma, pourrait tant être un chat qu'une chatte. Comme dans la vie, quoi. Ça ne se voit pas du premier coup d'œil. Un chat ou une chatte. Le réalisateur ne les a pas attifés de vêtements sexués, ils sont tous de poils vêtus. Autant Coma manie bien le fil et l'aiguille, et la caméra Super 8, autant Radiobo manie le tournevis comme un chef et bricole tout ce qu'il trouve en trois tours de main. Comme cet étonnant robot qui lui obéit au doigt et à l'œil, mais qui n'est pas si méchant qu'il n'y paraît. Et en mettant en commun leur savoir-faire, Coma et Radiobo créeront un univers de jeu encore plus fabuleux. C'est un très beau film qui plaira à tous, adultes et tout petits. Il a le mérite d'être intemporel, comme l'a souhaité le réalisateur Tsuneo Goda, qui dit lui-même « J'ai essayé de réaliser un film qui pourrait encore être apprécié dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, un peu comme un livre d'images qui continue d'être lu de génération en génération. » Ainsi, à chaque visionnage de Comaneco, le spectateur enfant comme l'adulte peut y découvrir quelque chose de nouveau ou ressentir des impressions différentes. C'est la raison pour laquelle je fais des films d'animation que je laisse à l'imagination du spectateur. Qui est Monsieur Tsuneo Goda ? C'est un publiciste à l'origine qui a rencontré le succès en 1998, grâce à une mascotte, Domo, totalement loufoque, qu'il a créée pour une chaîne de télévision japonaise. À la suite de quoi, il est devenu adepte de l'image en mouvement et a fondé en 2003 Dwarf Inc., le premier studio japonais de production de films d'animation stop-motion. Au sein de cette société, il dirige de nombreux projets raffinés destinés aux enfants, tout en développant parallèlement une œuvre d'auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse. Alors, encore une fois, ne ratez pas ce bon moment qui, en plus d'être doux et poétique, est très dynamique. Parfait pour commencer la nouvelle année. Le film est diffusé le mercredi 6 au matin, rediffusé le week-end toujours au cinéma Les Variétés, le samedi après-midi et le dimanche matin, et exceptionnellement, en écho à l'exposition à Aix-en-Provence de l'artiste japonais Katsumi Komagata, La Cité du Livre, le film est aussi programmé à l'Institut de l'Image le 13 janvier matin et après-midi. Plus de renseignements, notamment sur l'atelier Nature Animée qui précédera ou prolongera la séance sur le site de Photokino. Et d'ici là, belle fin d'année.
Au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil, qui s'est déroulé du 25 au 30 novembre dernier, nous avons rencontré Claude Ponty, un des grands créateurs d'albums jeunesse, dont l'album d'Adèle, en 1986, a révolutionné la notion d'imagier. Claude Ponty, dont tous les personnages singuliers qu'il a créés ont envahi les tables des libraires, les rayons jeunesse des bibliothèques, et toute une génération d'enfants les a déjà côtoyés. Des albums qui ne passent pas inaperçus, peut-être connaissez-vous déjà, Tromboline et Foule Bazar, Okilélé, Pétronille, Oumpopote, Blaise, Les Ertes et autres Monsieur Monsieur, et bien d'autres encore dans des univers touffus, inventifs et plus encore. Mais en attendant d'en reparler et de, qui sait, peut-être un jour rencontrer Claude Ponty à Marseille, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant, nous l'avons interviewé à propos d'une initiative créée sur Internet. Avec Olivier Douzou, auteur, illustrateur et créateur du secteur jeunesse des éditions du Rouergue. Avec Aline Hébert, responsable du département Action culturelle, enfance et jeunesse à la direction des affaires culturelles d'Épinay-sur-Seine. Lucie Coe, journaliste littéraire au Soir à Bruxelles. Delphine Greenberg, muséologue, auteur de livres pour enfants. Adrien Matret, consultant, Monique Ponty et Lucas Triboulet, plus 49 parrains comme May Angeli, Christian Bruel, Kitty Crotter, Thierry Magnier, Frédéric Bertrand, Geneviève Brisac, François Place, Art Spiegelman et j'en passe puisqu'ils sont 49 qui soutiennent le projet depuis le début. Le muse, lemuz.org, musée des œuvres d'enfants, est en ligne depuis le 18 novembre 2009.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
Claude Ponty, bonjour.
Bonjour.
Alors avec un collectif, vous êtes à l'initiative de la création d'un site qui s'appelle Le Muse et qui consiste à présenter des œuvres réalisées par des enfants, des œuvres que vous souhaitez faire circuler, rendre visibles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu déjà le début de l'aventure et l'objet ?
Oui. Le début de l'aventure, c'est que, bon, évidemment, vous savez, peut-être, je suis auteur, illustrateur, et avec beaucoup d'autres amis qui font la même chose que moi, on est souvent amené à rencontrer des enfants qui, soit à l'école, soit dans des ateliers, soit dans des médiathèques, ont créé des œuvres, des sculptures, des peintures, des poèmes, des jardins, des choses comme ça, qui sont souvent très intéressantes, mais qui ne sont jamais conservées. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit que c'était pas possible et qu'il fallait trouver un moyen, au moins, de montrer aux autres enfants ce que faisaient les enfants. Et on a eu l'idée de faire un musée sur Internet. Donc, les enfants ou les gens qui travaillent avec des enfants ou les gens qui ont dans leur grenier des œuvres d'enfants peuvent les soumettre au Muse, les proposer. Il suffit que ce soit scanné ou photographié. Et si le Muse les trouve... que ça fait partie de l'idée du Muse qu'il a, les œuvres seront acceptées et feront partie d'une collection. L'intérêt, c'est que un enfant de n'importe où dans le monde peut voir ce qu'un autre enfant fait. S'il habite Pékin, il peut voir ce qu'un enfant fait à Paris, à Marseille, à Toulon, à la Seine, à Menton, à Montélimar.
Donc ça peut être le fruit de projets collectifs, donc d'ateliers réalisés dans les écoles ou...
Dans des ateliers privés, tout seul chez sa maman ou chez son grand-père ou sa grand-mère, à l'école avec d'autres, ou des œuvres faites en commun à plusieurs, des fresques, des grandes sculptures. Tout ce qu'on demande, c'est que ce soit réellement fait par les enfants, même si des adultes les aident ou les soutiennent ou les conseillent, mais pas, on ne veut pas sentir la main de l'adulte dedans. Si c'est des poèmes, si c'est chanté, si c'est écrit, si c'est une photographie, si c'est, je ne sais pas, un costume, un masque, une grimace, un chapeau. Il faut que ce soit créé par les enfants et que ce soit jugé intéressant.
Et pourquoi, à vos yeux, ce que les enfants créent a autant d'importance ?
Les enfants sont quand même des personnes, sont des gens qui un jour ou l'autre vont devenir des adultes et on s'intéresse à ce que font les adultes à partir d'un certain âge. C'est ridicule. Quelqu'un existe dès sa naissance, même dans le ventre de sa mère, il est déjà particulier, spécial, personne ne se ressemble. Et il n'y a aucune raison de ne pas s'intéresser à ce que font les enfants, d'autant que souvent, ils font des choses extrêmement pertinentes, intelligentes. Ils posent des questions sur la vie, sur la mort, pourquoi ceci, pourquoi le ciel est bleu. Ils posent toujours des questions intelligentes. Ils parlent, ils racontent souvent des choses extrêmement intéressantes. La seule chose, c'est qu'on n'y fait pas attention. Donc nous, on a décidé d'y faire attention.
Ou alors on y fait attention, mais ça reste rangé dans des classeurs, à la cave.
Oui, on l'oublie au fond. Voilà, oui, c'est ça.
On les oublie.
Souvent quand on les conserve, on les oublie à la cave et où ça reste dans un vieux cartable qui va au grenier. Et c'est un petit peu dommage.
Alors là, on parlait des œuvres terminées, des œuvres finies, mais il y a aussi un espace atelier où on peut aussi déposer des choses en cours de réalisation.
Oui, on a créé des espaces ateliers, c'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, travaille avec des enfants, même si ce n'est pas dans une école, juste dans un atelier ou parce qu'il a décidé de le faire dans un petit coin, s'il fait de la gravure sur bois, par exemple, il peut avoir un espace dans le Muse où il va exposer son projet, sa démarche, pourquoi il travaille, avec qui, quels enfants, et puis montrer le travail en train de se faire petit à petit. L'intérêt de la chose, c'est qu'il a un code et qu'il ne va ouvrir cet espace qu'aux gens à qui il veut bien montrer. S'il n'y a que les enfants qui le voient, il n'y a que les enfants qui le voient. Si les parents, si on veut bien leur montrer, on leur montre. Si on a une grand-mère à l'autre bout du monde, on lui donne le code et elle le voit. Le deuxième intérêt, c'est que cet atelier, enfin cet espace qu'on appelle un atelier, il peut le partager avec quelqu'un d'autre. Par exemple, il habite Marseille, il fait de la gravure sur bois, et il va travailler avec quelqu'un qui est à Pékin et qui fait de la gravure sur cuivre. Et donc, les enfants pourront se montrer leur travail, échanger, se poser des questions, évoluer autrement, ou même faire un travail en commun.
Finalement, c'est un espace de rencontre, le Muse.
Oui. On veut que ce soit un espace de rencontre. On veut que les enfants se rendent compte que, effectivement, ils vivent sur une planète, mais que sur cette planète, il y a une culture humaine, qu'elle vient de partout, qu'elle se fabrique avec tout le monde, qu'elle progresse avec tout le monde, qu'elle vient de très loin, qu'elle peut aller très loin. Si tout ça se branche, se communique ensemble et que se rendre compte que, je ne sais pas, sans les Indiens, il n'y aurait pas de zéro dans nos mathématiques, sans les Arabes, il n'y aurait pas d'algèbre. Algèbre, c'est de l'arabe au début. Tous les peuples, toutes les civilisations, toutes les cultures, même les plus petites, ont toutes apporté quelque chose. Et les enfants aussi, dans leur culture, apportent quelque chose. Et on veut que ça se sache.
Alors, pour faire connaître ce site, comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a des moyens particuliers ?
C'est extrêmement simple. On va sur Internet, on fait lemuz.org et on entre sur le site. Après, on se promène et puis on suit les consignes. Si on veut proposer des œuvres, si on veut rentrer, on peut s'inscrire, avoir un pseudonyme, un code, se constituer un portfolio, donner son impression sur les œuvres des autres. On peut proposer des œuvres, on peut faire beaucoup de choses.
Et vous avez besoin de soutien, de renfort, de relais ?
Alors, on peut nous aider classiquement en adhérant à l'association, en nous donnant un peu de sous, ce qui est très bienvenu, mais on peut nous aider simplement en nous envoyant des œuvres qui seront proposées. Hein, c'est pas parce qu'une œuvre est proposée qu'elle est acceptée. On peut nous aider en devenant jury, parce qu'on se sent qualifié, parce qu'on aime le projet. On peut nous aider en parlant du MUZE à d'autres gens, et surtout quand on a des cousins ou des amis très loin, de l'autre côté de la mer ou de l'océan, parce que pour le moment, comme on débute, on a beaucoup de choses françaises et on a un peu de choses en Afrique, un peu de choses d'Amérique latine, mais on n'a pas de choses du monde entier. Et ce qui est intéressant et passionnant, c'est d'avoir le monde entier.
Claude Ponty, je vous remercie beaucoup.
C'est moi, merci.
Alors, il faut préciser que le MUZE repose aussi sur un rêve un peu fou de Claude Ponty, comme un rêve d'enfant. Alors, avis aux propriétaires de châteaux dans la Loire, par exemple, qui voudraient bien prêter un lieu magique dans lequel Claude Ponty et ses amis pourraient organiser une grande exposition des œuvres originales sélectionnées par le MUZE. Et pourquoi pas ? Alors, en attendant, à vous de jouer, à vous de faire vivre cette belle initiative, www.lemuze.org.
Un caillou dans la chaussure.
Un caillou dans la chaussure, c'est déjà terminé et l'année 2009 avec plus que quelques jours sous la casquette 2009 et le calendrier tourne une page. Nathalie,
merci à tous nos auditeurs et à la belle équipe du caillou dans la chaussure. Sébastien Gély, Marie-Dominique Russis et l'équipe de Radio Grenouille. Merci aux jolies voix que l'on nous prête. Merci donc pour les virgules, les voix de Jules, Léa, Andrea, mais aussi Jasmin, Nour, Odile et Alberta.
Merci à tous nos invités qui se prêtent aux interviews aujourd'hui, Emmanuel Loudard et Claude Ponty. Je vous souhaite aussi une très bonne fin d'année chocolatée. Prochain rendez-vous l'année prochaine, le mercredi 27 janvier 2010 à 11h. Merci à tous et à très bientôt.
Bon boudin.